par la prière.
Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous sommes encore très reconnaissants envers toi pour la grâce que nous avons, Seigneur, de se retrouver invité à ta table ce soir. Et c'est Dieu qui veut nous parler, qui veut nous instruire, Seigneur, qui veut nous enseigner. Mais hélas, sans ton intelligence, ta sagesse, le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Papa, nous venons nous abandonner à toi, te remettre, Seigneur, aussi ton serviteur qui a la charge de nous aider à saisir la profondeur de ta parole. Puisque nous sommes encore sur la terre, nous avons besoin d'être enseignés, d'être conduits par ta main puissante. Donne-nous une double portion du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à bien saisir cela. Laisse, Seigneur, que ceux qui vont nous rejoindre racontent ta présence, ton amour, ta présence pour que tous nous comprenions ce que tu veux nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Je ne suis pas devant le cran et donc je vais demander l'assistance du pasteur Célestin. Mais en attendant, je vais demander à un frère de nous lire. Si le pasteur José ou frère Médard, si il est là qu'il lise le verset du 25e au 38e verset.
Oui, nous pouvons lire les 25 dans la version française courant. Nous dit ceci, ensuite, ils firent remplir leur sac de blé et remplacer l'argent de chacun dans son sac. Puis, il ordonna de leur fournir des provisions de voyage, ce qui fut fait. Les pères chargèrent leur de blé sur leurs ânes et s'en allèrent. Ils arrêtèrent pour la nuit. L'un d'eux prit sac pour donner à manger à son âne et trouva son argent déposé à l'entrée du sac. Il cria à ses frères, « Rendu mon argent, il est ici, dans mon sac. » Déconcertés et effrayés, se demandaient l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Lorsqu'ils arrivèrent à Canaan, auprès de leur père Jacob, ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé. L'homme qui est gouverneur du pays nous a parlé durement, dit-il. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons répondu, nous ne sommes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Nous avons 12 fils d'un même père. Mais l'un de nos frères a disparu et le plus jeune est resté au pays des Canaan avec notre père. Cet homme nous a répondu qu'il voulait savoir si nous étions vraiment honnêtes. Moi, l'un de vous ici, a-t-il dit, et allez porter ce qu'il faut. Vos familles affamées. Ensuite, vous me ramènerez votre plus jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Alors, je vous rendrai votre frère Siméon et je vous laisserai circuler dans le pays pour vos affaires. Ils vidèrent ensuite leurs sacs et chacun trouva dans le sien une bourse avec son argent. Lorsqu'ils virent cet argent, ils eurent tous peur, même Jacob, leur père. Celui-ci leur dit, « Vous m'avez déjà privé des deux enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voudriez, me prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Il dit, Famine n'est pas Benjamin, tu as deux enfants, moi, et je te le ramènerai. Non, on dit Jacob, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, lui seul me reste. Si un malheur lui arrivait au cours de votre voyage, âgé comme je suis, je mourrai de douleur par votre faute. Amen.
Amen. Merci pour cette lecture, pasteur, très très claire. Et nous, ça nous aide à comprendre directement le texte. Donc, Joseph, Dieu l'a élevé après un long temps de souffrance, et les frères de Joseph ne se répandent toujours pas. Et avec le temps, le mensonge, quand on le répète pendant longtemps, on pense que c'est ça la vérité. Donc ils disent que leur frère était mort. Ils disent ça à Joseph, qu'il était mort, parce qu'ils avaient menti depuis le départ. Et Jacob aussi, il avait trompé son frère, il avait trompé son père, prendre la bénédiction, et il s'est fait tromper chez Laban, et maintenant encore ses enfants l'ont trompé. Finalement, on voit que le mensonge, quelle que soit sa durée, ça ne devient pas une vérité. Donc le texte nous montre combien les enfants de Jacob, les garçons, les grands garçons, continue à voir le jugement de Dieu pratiquement sur eux, mais on ne les voit pas se repentir. On ne les voit pas dire que Dieu nous pardonne. Ils trouvent seulement que c'est grave, que ceci nous arrive à cause de ceci, de cela, mais on ne voit pas une vraie récompense, une vraie repentance. Donc, je vais laisser la parole à l'Assemblée, mais comme je ne suis pas encore devant le cran, je vais laisser... au passage, c'est à Maman Christine de m'aider à donner la parole, donc à diriger la séance. Et nous allons donc clôturer à la fin.
Oui, merci, et Papa Thomas. Le pasteur José voudrait commencer, s'il te plaît.
Merci beaucoup, pasteur. Et au verset 25, commence avec le mot ensuite, il, c'est-à-dire Joseph. Avant, Joseph éloigna d'eux pour pleurer. Et lorsqu'il revint, il leur dit que je reste avec Siméon, et il le fit enchaîner devant ses frères. Ensuite, il fait quelque chose de très positif. Remplir leur sac de blé, et ensuite replacer l'argent de chacun dans son sac. Et enfin, il ordonna leur fournir des provisions de voyage. Ah, vraiment, c'est beaucoup. En un mot, il n'a pas vendu de la nourriture à ses frères. Il s'est occupé d'eux. Il s'est occupé de leur famille. Quel exemple c'est un bon exemple. Il montre qu'il est dans l'abondance. Que eux vivent dans la disette et ils participent un peu à leur souffrance. Oui, aimé, Seigneur nous donne, nous devons aussi partager. Partager librement comme il a fait ici. Merci.
Oui, papa Thomas. Oui, papa Thomas, tu nous suis?
Oui, vous pouvez continuer parce que je suis en train de conduire vers la maison pour aller à l'écran. Passez seulement la parole.
Ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un grand exemple à suivre que cet homme, quel cœur il a. Quand il voit ses bourreaux, ceux qui ont cherché sa mort devant, et il va leur faire le bien à ce niveau. Non, ça, c'est vraiment un cœur divin. Merci beaucoup, maman. Christine, tu as la parole.
Merci, papa, pour la parole. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis au verset 25. C'est vraiment comme pasteur a dit l'exemple à suivre, j'ajouterai un très bon exemple à suivre. Je m'imaginais la douleur qu'il avait quand on le vendait et ses propres frères. On nous a lu tout à l'heure les versets précédents qu'il allait pleurer. Il pensait à toute la scène, peut-être. La Bible ne nous dit pas. Mais dans son cœur, vraiment, sans que personne l'exhorte, mais son propre cœur l'a exhorté. On sait voir ici qu'il n'y a pas de la haine, qu'il n'y a pas de la méchanceté, mais le cœur est bien rempli de l'amour, qu'il ait envie de leur donner, même de ne pas vendre, mais de leur donner gratuitement et donner plus qu'encore. Ça, vraiment, ça m'a touché beaucoup et pour dire que le Seigneur, moi, c'est une interpellation pour dire, Seigneur, Joseph était un humain comme moi et vous. Donc, que le Seigneur nous aide. Si Joseph a pu faire, c'est que Dieu a mis à nous la capacité à cause de l'amour que nous avons envers lui de surpasser tout ce que nous avons traversé comme pour surmonter et faire du bien. Amen.
Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand exemple à suivre que Joseph est en train de nous montrer. Vraiment, il fait au-delà de ce qu'un homme normal, un homme ordinaire peut faire. C'est vraiment, vraiment très, très grand ce qu'il est en train de faire. Et il va leur donner, charger leur âne. Donc, ils étaient quand même bien parce qu'ils avaient des ânes et donc ils ne sont pas venus à pied. On a chargé chacun sur son âne sa nourriture et ses sacs, l'argent remis dedans. Et ceux qui étaient en train de charger, ce sont les gens qui nous montrent aussi là un exemple. Dans le sens qu'on voit tout le monde qui vient, on lui vend. Mais ceux-ci, on dirait qu'ils ont un statut spécial. On leur dit de leur remettre même leur argent. Et ils obéissent. D'autres pouvaient carrément prendre cet argent, mettre dans le sac pour dire non, on leur a remis. Non. On a remis à chacun son argent, comme c'était, ils sont venus avec. Pourtant, quand on faisait les sacs, ni Joseph était là, ni ses frères étaient là. C'était des ouvriers à part qui faisaient qui faisait ce travail. Alors, on voit quelle confiance ils ont donné en Joseph. Il faut dire, si à tout le monde, il a vendu, mais à cette catégorie, il leur dit de leur remettre leur argent, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Faisons, nous le connaissons, un homme correct, un homme honnête. S'il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Faisons comme il dit. Là, c'est vraiment encore là un exemple à suivre. Quand on nous demande de faire quelque chose, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais quand nous avons confiance dans ce qu'on nous demande de faire, nous le faisons parce que réellement nous voyons là comment il y avait une complicité, une collaboration vraiment sincère entre Joseph et ses travailleurs. Voilà, nous continuons les textes. Si nous avons quelque chose à dire, nous pouvons. Papa Thomas, si tu es déjà arrivé, tu me dis.
Oui, bientôt là, tout à l'heure.
Donc, vous pouvez toujours demander la parole. Nous continuons à partager. Donc, je vois encore une main qui se lève. Maman Christine, tu as encore la parole.
Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 27 et 28. Ils sont maintenant dans le retour au pays de Canaan. Mais qu'est-ce qui arrive quand là où ils voulaient passer la nuit, l'un d'eux a ouvert son sac, il a trouvé et on lui a remis l'argent qu'il avait donné et ils se sont étonnés et tous. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On m'a rendu mon argent, dit-il à ses frères. Voici dans mon sac. Alors le cœur vacillant, saisi de panique, il se dit les uns aux autres, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, moi, c'est comme une leçon que la vérité ici, il ne faut pas qu'un cœur soit chargé. Quand ma conscience me dérange par le mal que j'ai déjà fait, regarde, un bienfait, on les a retourné l'argent. Ils devraient se réjouir. Mais pour eux, ça crée la panique. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà chargé par ce qu'ils avaient fait dans le passé. Alors, pour éviter la panique, l'angoisse, l'autre version utilise l'angoisse. Donc, pour éviter tout cela, nous devons avoir faire du bien pour ne pas avoir une conscience très chargée. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Quand nous faisons du bien, nous aurons la conscience vraiment légère. Le mal, on dirait que le mal, quand nous le faisons, il continue toujours à nous poursuivre. Voilà pourquoi nous devons rechercher plutôt à faire du bien, beaucoup de bien, et ces biens vont nous suivre partout. Merci. Frère Gaston, tu as la parole.
Merci, Pasteur. Céline, moi, je suis au verset 31. Donc, 31. Nous lui avons dit, nous sommes sincères. Ça m'interpelle de voir que Joseph qui est parti en Égypte, quand il a vu ses frères, il les a reconnus. Et il a voulu tester un peu, entendre leur histoire pour confirmer. Peut-être qu'il pouvait avoir un certain doute. Ses frères qui sont au nombre de 10, ils ne parviennent pas à détecter ne fût-ce qu'un moindre signe que celui qui est devant nous, c'est notre frère. Alors je me posais la question pourquoi, mais c'est lorsque je suis en train de nager dans les péchés m'aveuglent et le péché obscurcit même mon intelligence. Je ne peux pas comprendre même les bonnes choses, les vérités simples. De telle sorte que ils sont là. Joseph qui est arrivé en Égypte, il marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit lui révèle, regarde, qui sont devant toi? Ce sont tes frères. Lorsqu'on demeure dans la vérité, nous marchons avec le Saint-Esprit, l'Esprit nous éclaire, notre intelligence est éclairée. Mais lorsque je suis dans les péchés, on peut me dire, ce que tu fais là est mauvais, je vais trouver toujours une justification. Une personne qui est saoule, quand on lui dit qu'elle est saoule, elle va dire non, je suis normal. Donc c'était une interpellation pour moi de vite abandonner les péchés, parce que si je demeure dans les péchés, je suis dans les noirs, dans les ténèbres, et je m'endurcis de telle sorte que même ma conscience devient morte et rien, je ne peux pas voir la lumière ni comprendre la vérité. C'est ce qui m'a beaucoup interpellé. Amen.
Amen. Beaucoup, ils disent la vérité en disant que nous sommes 12. Et même là, quand ils étaient devant leurs frères, ils ne l'ont pas reconnu. Tout simplement parce qu'ils étaient chargés, les cœurs remplis de mauvaises choses. Et Joseph, vraiment, la crainte de Dieu remplit son cœur. Il pouvait voir les gens qui arrivent et les reconnaître. Merci, Papa Gaston. Maintenant, c'est le... Papa José, tu as encore la parole.
Merci beaucoup. Je reviens à... Pardon. Je reviens à... au geste posé par le gouverneur à l'endroit de ses frères et surtout en ce qui concerne l'argent. C'était une grande surprise pour eux. Ils ont, comme ont dit mes prédécesseurs, comme ils se sentent toujours coupables. Ici, je me réfère au verset 21 de ce qu'ils ont fait à leurs frères. Verset 21, ils disent, comme nous avons déjà vu, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Ils voient ce bienfait négativement. Mais ce que je veux souligner est que, bien aimé, nous devons aussi nous attendre au bienfait du Seigneur sans que nous y pensions. Que Dieu peut nous surprendre de bienfait. J'ai un tout petit exemple ici même. Les enfants m'ont acheté l'ordinateur et le monsieur, le vendeur, nous a laissé attendre, nous fait attendre longtemps pour qu'il vienne nous délivrer cet appareil. Nous sommes fatigués, nous sommes partis pour comparer les prix. On est encore revenu parce que c'était quand même un prix raisonnable. Alors, quand ce monsieur a vu que nous avons attendu, nous sommes partis et revenus, le monsieur était touché. Si bien que il a fortement réduit le prix. Le prix, au lieu d'acheter au prix normal, il a réduit le prix. Oh, voilà, je mal fait de vous faire attendre. Voilà, bien aimé, ça c'est le Seigneur. Le Seigneur peut nous surprendre de cette façon. Il le fait aujourd'hui et nous devons vraiment lui être reconnaissants. Merci.
Amen.
Amen. Une bonne surprise et le Seigneur est capable de nous faire des surprises de cette manière. Et quand la surprise arrive, on est étonné de la surprise. C'est ça qui est ce qui est rigolo dans notre texte. Une très bonne surprise. on est vraiment froissé, étonné. Ah, pourquoi ça? Qu'est-ce que Dieu nous fait encore? Merci beaucoup, Papa Thomas, tu as la parole.
Oui, bien-aimé, je suis toujours dans ce verset 28. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Nous avons l'habitude souvent de nous poser cette question comme si Dieu nous devait que le bien, et alors on se dit, qu'est-ce qu'il me fait encore cette fois-ci? Les gens ne voient pas, ces jeunes gens, ils ne voient pas seulement le bien qui leur est fait, mais aussi la manière de parler, c'est qu'ils blâment Dieu. Ils blâment Dieu. Et nous avons parfois cette habitude de trouver que Dieu aurait pu faire de cette manière, Dieu aurait pu faire de ceci, mais on ne voit pas une prise de conscience personnelle. Ils avaient dit la fois passée, ah, c'est Dieu qui nous juge, vous voyez, je vous disais, il ne faut pas, mais il n'y a pas une repentance dans les paroles qu'ils disent que nous avons commis un péché, nous avons fait ceci. Ils ne disent pas, même quand ils diront à leur père dans l'avenir que Joseph vit encore, il n'y a aucune repentance. Il n'y a aucune repentance. Que Dieu nous donne le cœur de ne pas chercher à se juger. Quand quelque chose nous arrive, de ne pas demander qu'est-ce que Dieu me fait, qu'est-ce que ceci encore, non. Mais que je vois en ce qui m'arrive, qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre. Et non pas me demander qu'est-ce que Dieu fait encore ici, non. Ce n'est pas une bonne manière de poser la question. Mieux vaut que je demande qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette situation. S'ils avaient s'étaient posé cette question, peut-être que la conscience de repentance serait venue dans leur cœur. Mais il n'y a pas une conscience de pardon, il n'y a pas une conscience de ce que je fais contre Dieu. Mais la question, c'est que qu'est-ce que Dieu me fait encore ici? Merci.
Merci beaucoup, Papa Thomas. Qu'est-ce que Dieu me fait encore? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Souvent, quand c'est une bonne surprise, une bonne bénédiction, on dit, ah, ça, c'est vraiment la main du Seigneur. Mais quand c'est mal, on se dit, ah, mais pourquoi Dieu permet encore ça? On se pose toujours cette question. Voilà, il n'y a plus de main. Tu es maintenant à mesure de prendre, Papa Thomas?
Oui, je m'excuse pour le retard. Donc, nous pouvons continuer. Le passage, donc, il y a pratiquement le voyage en Égypte et puis l'arrivée à Cana. L'arrivée, c'est quand ils arrivent et qu'ils parlent, ils donnent leur. C'est là la partie de l'arrivée et la réaction de Jacob. Mais la première partie, c'est donc leur retour, le voyage et ce qu'ils constatent. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager dans ce sens, il peut toujours continuer à lever la main et nous allons la passer à qui la demande, à qui demande la parole. Voilà, je regarde, il n'y a pas quelqu'un. Regardons la réaction de Jacob au verset 36. Jacob dit que vous me privez de mes enfants. D'abord Joseph, ensuite Siméon, et maintenant vous demandez Benjamin. Alors moi je me dis, comment un enfant peut être mort alors qu'il vit? Joseph vit, mais lui dit, vous m'avez privé de Joseph. Siméon vit et il dit, vous m'avez privé de quelqu'un. Comment on peut être mort par rapport à des parents? Je me suis posé la question aujourd'hui. Donc, si quelqu'un n'est pas productif par rapport à des parents, pour ces parents-là, la personne est comme une personne morte. Donc, on peut voir aujourd'hui des personnes vivantes. C'est ton grand frère, c'est ton enfant, c'est ta sœur. Oui, mais s'il n'y a pas de productivité qui renforce et qui prouve la relation, la personne peut considérer que c'est comme si tu étais morte. Donc nous avons beaucoup de gens, même dans l'église, mais si c'est seulement de noms sur la liste, mais on ne participe pas aux activités, on n'est pas actif pour prêcher l'évangile, on n'est pas actif, on n'entre pas dans un travail donné dans l'église. On est improductif. Jacob déclare ici Joseph mort et il déclare Siméon mort. Est-ce qu'il y a-t-il un domaine dans la vie chrétienne, dans ma vie de tous les jours, dans lequel les gens peuvent considérer que je suis comme mort, comme quelqu'un qui ne vit pas? Je donne la parole à Maman Christian ou au Pasteur Célestin.
Merci beaucoup, Pasteur Thomas, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 36, mais la dernière partie, c'est sur moi que tout cela retombe. Qu'est-ce qui va retomber? C'est l'angoisse, la douleur, la souffrance, comme on dit, d'être séparé de ses enfants. Moi, c'est comme une leçon pour dire que, bien-aimé, en tant que parent, normalement, tout ce qui se passe autour de nos enfants, que nous ne voulons pas, doit avoir une influence, soit négative ou positive, à notre vie. Et moi, je me disais, en tant que des grandes personnes, nous avons des parents. Comment est-ce que nous réagissons envers nos parents? Nous voyons ici Jacob qui souffre de la douleur de manquer des enfants. Mais est-ce que nous réalisons que nos parents souffre aussi de la douleur? Quel est notre comportement? Quelle est notre attitude vis-à-vis de nos parents? Et si nous sommes des enfants, c'est de savoir que même si moi je suis là, mais tout ce que j'ai subi, quelque part mon père ou ma mère en souffre pour ça. Amen.
Amen. Le comportement des parents, le comportement des enfants affecte. Je suis en retard aujourd'hui, j'ai couru parce qu'on devait aller prier pour un enfant d'un grand avocat de la ville. Son grand frère était dans la drogue et lui aussi, on vient de l'attraper dans la drogue et la boue, on vient de le chasser de l'université et on devait le mettre à la maison de réhabilitation. Il a refusé, il a fui. Et maintenant, toute l'église devait aller, je devais aller diriger cette prière pour que l'enfant du riche puisse être récupéré contre la drogue. Il ne peut pas étudier, il est dans la drogue. Donc, le grand avocat qui a beaucoup d'argent, une famille noble, est troublé parce que l'enfant a choisi, comme l'autre garçon, les deux garçons ont choisi la vie de la drogue. Donc, vous voyez que Jacob, ce qu'il dit ici, c'est profond, frères et sœurs. Il parle des enfants. Il dit que Joseph n'est plus. Siméon est pris. Maintenant, vous êtes sur le chemin de Benjamin. Et ce malheur-là, il dit en anglais, on dit « everything is against me ». Toute chose est contre moi. Rien ne marche avec moi. C'est ça qu'il déclare ici. Que Dieu nous aide, que nous fassions la joie des parents, mais que nous prions aussi que nos enfants soient des enfants de bénédiction. Je vais donner la parole à Maman Suzanne.
Oui, merci. Il y a quelque chose qui vraiment m'interpelle dans le comportement, l'agissement de Jacob. C'est du fait aussi que, ayant vécu une première situation avec son premier fils qui avait été enlevé, vendu, bref, je crois qu'il a gardé aussi le doute maintenant sur ses propres enfants. Parce qu'ici, on voit bien qu'il s'adresse à ses enfants, vous. Donc, il dit, vous me privez de mes enfants. Donc, une deuxième histoire encore qu'il vient de raconter, je crois que c'est maintenant le doute. Même quand bien même nous, en tant que parents, comment nous nous comportons, même quand les enfants ayant peut-être fait une faute une première fois. Gardons-nous ce doute toujours en nous, quand bien même ils diraient la vérité, comment nous nous comportons. Donc je crois que c'est le fait aussi d'avoir vécu cette première situation avec Joseph qui ne croit plus à tout ce que ses enfants lui racontaient. Donc je crois que ça doit nous interpeller aussi en tant qu'adulte aussi, en tant que parent, parce que là je me mets à la place de Jacob, c'est un parent. Donc, je me dis, comment nous nous comportons. Quand bien même l'enfant nous dit la vérité et que c'est la vérité, parce qu'ici c'est la vérité, ils lui disent que le pharaon, le Joseph, qui est leur frère, nous a dit ceci, nous a fait ceci. Et voilà qu'il nous demande aussi que l'un de nous reste. Donc c'est un peu toute cette histoire. Alors moi, pour moi, c'est plus ce doute que nous gardons de ce que les enfants peut-être ont fait et nous ne croyons plus, quand même, quand bien même ils disent la vérité. Donc vraiment, ça, que cela nous interpelle aussi comment nous, en tant que parents, nous nous comportons envers nos enfants. Donc c'est ça que je voulais vraiment attirer dans ce verset ici.
Merci, notre sœur Suzanne. C'est vrai. On le voit ici qu'il ne peut plus croire parce qu'il trouve que Joseph était mort et maintenant c'est Siméon qui reste. Il fait plus confiance. Comment je réagis par rapport aux fautes du passé des enfants? Est-ce que j'enlève la confiance totalement de l'enfant ou que je peux commencer à croire quand c'est la vérité? Est-ce que je discerne? Merci. Nous donnons la parole au pasteur José des États-Unis qui avait levé la main tout à l'heure.
Merci beaucoup. Je suis au verset 37. Il s'agit ici de Élé veut porter garant. C'est porter garant que papa met des doutes. Et c'est normal, puisque Joseph n'est pas là depuis plus de 20 ans. Et à peine, il y a Siméon qui est resté en prison. Il ne sait pas ce qui va arriver. Voilà que maintenant, on lui demande le troisième enfant. Oui, c'est normal. Je ferai comme ce papa. Alors, mais son premier fils, Ruben, lui dit, moi, je ramènerai Benjamin. Et si je le fais pas, tu peux tuer mes deux enfants, mes deux fils, contre ton fils, mon frère. Oui. Celui-ci, il dit cela parce que il a quand même de la confiance au gouverneur. Parce que ce gouverneur-là, bien sûr, il était dur à leur égard, mais c'est un homme important, un homme de confiance. Alors, comme ce gouverneur a dit que revenez avec l'enfant, ce n'est pas pour tuer l'enfant. Ce n'est pas pour tuer l'enfant. C'est pour cela qu'il s'engage à partir avec l'enfant. En un mot, oui, la confiance peut toujours être dans nos relations, même si on ne connaît pas exactement ce que la personne dit, mais quand même, on fait confiance. Parce que finalement, on verra que Joseph, après tout, c'est un homme de confiance. Voilà, j'ai voulu tout simplement montrer que, oui, qu'on ne soit pas trop sceptique, qu'on ne soit pas aussi naïf, mais quand même, un peu de confiance, et surtout quand on voit que la personne qui parle, c'est un homme de confiance ou une femme de confiance. Merci.
Merci, pasteur. Ayons le discernement. Ruben a discerné que réellement le gouverneur pouvait faire ça. Nous donnons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci, et papa Thomas, pour la parole encore. Je reviens au verset 33 où je suis en train de voir le rapport qui est fait à Jacob par la délégation qu'il avait envoyée de ses fils. Ils sont en train de dire, l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit. voici, il continue la suite. Mais cet homme qui est le Seigneur, cet inconnu, c'est leur frère. Il est le Seigneur de l'Égypte, il est leur frère, mais il est inconnu de leur part. Alors je me dis, nous aussi nous avons un Seigneur qui a fait. Des fois, nous déclarons le servir. Des fois, nous déclarons lui appartenir. Mais est-ce que reste-t-il un inconnu où nous le connaissons réellement? Parce que là, ils sont en train de raconter d'un Seigneur qui a fait ceci, cela, mais tout en ignorant qui cet homme est réellement. Mais nous autres, avec tout ce que le Seigneur a fait pour nous, est-ce que nous les connaissons réellement? Voilà l'interpellation que j'ai avec ce discours. Amen.
Amen. Nous avons un Seigneur. Combien nous le connaissons? Combien il est Seigneur? Jésus va dire, le Seigneur va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Et il a comparé cela à une maison construite sur le sable. Quand le vent impétueux arrive, donc la maison tombe parce qu'elle est construite sur le sable. Mais quand on fait ce que le Seigneur dit, on est alors quelqu'un qui construit sur le roc, lui-même le Seigneur. Et nous donnons la parole à Mme Christine.
Oui, merci beaucoup, Pasteur Thomas, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est la vérité que je voulais relever. Nous voyons ces frères ont gardé les mensonges pendant autant d'années. C'est le mal qu'ils avaient fait, ils ont vendu leurs frères, ils ont gardé, personne n'était au courant. Mais ici la préparation est que la vérité sera sur le toit. Pour dire, moi, c'est une interpellation pour dire qu'est-ce que j'avais fait de mal il y a plusieurs années passées, à moi d'une repentance. Mais sinon, sachons qu'un jour, le mal sera à nu et à découvert. Amen.
Amen. Ton péché te retrouvera, dit la Bible. Moïse a dit aux enfants d'Israël, au Rubénite, il a dit, mais vous savez, vous devez faire le bien. Vous devez aller combattre pour vos frères parce que si vous ne le faites pas, sachez que votre péché vous retrouvera. On ne peut pas commettre le péché et puis ça passe inaperçu. Non, ça sera exposé pour la repentance. Frères et sœurs, voyons encore au verset 37. Le verset 37, le marché, le contrat que Ruben propose, sa garantie, c'est la mort de ses deux enfants. Donc, il veut que pour que son père donne notre fils, il dit, ce que je donne comme garantie, c'est que tu tues tes petits-fils, mes enfants. Mes deux enfants ici, si l'autre là n'est pas là, alors tu prends mes deux enfants, tu les tues comme ça. Parce que c'est la mort qu'il annonce, c'est la mort. C'est dommage que lui, il ne veut pas la mort de son fils, après que le premier est mort, il ne veut pas la mort de l'autre fils, mais Ruben propose la mort. On verra Judas qui parlera prochainement. Lui, il va parler de la vie, parce qu'il est de la lignée de Jésus-Christ. Mais Ruben ici parle de la mort. Il propose que si on ne revient pas avec l'enfant, alors je te donne, mais deux enfants ici, pour que tu les tues. Qu'est-ce que son père va gagner à tuer ces deux petits-fils? Rien. Ce n'est pas dans la mort que se trouve le salut. Jésus-Christ est la vie et la résurrection. Nous devons parler de la vie et pas de la mort. Je donne la parole au passé. C'est le son à Maman Christine.
Oui, merci beaucoup, papa. Et Thomas, j'atterris dans ce verset 38 où nous voyons le cœur d'un homme vieux, un homme qui regarde ses enfants, qui voit une très grande douleur dans ce qu'ils sont en train de dire. Et ce sont les derniers mots de ce verset qui me frappent vraiment beaucoup. Il dit, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Donc, je reviens à ce que Maman Christine a dit tout à l'heure. En tant qu'enfant, nous ne savons pas quelle est la douleur que nous causons chaque fois que nous avons fait quelque chose qui a éclaboussé l'honneur de la famille. Nous devons aujourd'hui encore réfléchir. Nous sommes issus d'une famille. C'est vrai, nous sommes entrés dans la famille chrétienne. Nous sommes issus d'une famille physique. Nous sommes partout, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices de nos parents. Même si nos parents ne sont plus, ils nous ont laissé donner une éducation, ils nous ont formé, ils nous ont fait quelque chose qui nous a marqué. Et si nous restons attachés au Seigneur, si nous aimons faire le bien dans ce monde, nous rendons non seulement gloire à Dieu, mais nous faisons honneur aux parents à qui Dieu a donné des enfants. Quand Dieu donne les enfants aux parents, c'est pour que les enfants soient d'une grande utilité pour ce monde. Mais si nous, en tant qu'enfants des parents vivants ou morts, nous sommes en train de rendre le déshonneur à ce monde en détruisant le monde. C'est le déshonneur, non seulement de Dieu, mais de ceux que Dieu a fait de la responsabilité. Voilà comment je trouve combien nous devons vraiment réfléchir et même parler à nos enfants que leur comportement a un impact dans la vie des parents, un impact dans le monde, un impact dans le royaume des cieux. Amen.
Nous irons avec ces paroles et demain dans la prière, dans l'intercession, nous allons prier sur les enfants. Si vous avez des enfants, si vous êtes enfant des parents et vous avez des enfants, nous allons prier demain dans l'intercession avec focus sur les enfants. Il y aura une prière vraiment la nuit qui sera vraiment puissante, mais ça sera dirigé vers les enfants. Nous invitons tout le monde à participer à la prière d'intercession, d'adoration du Seigneur demain. Nous clôturons donc ces passages aujourd'hui. Nous avons vu des grandes choses. Nous avons vu la générosité d'un homme à qui on a fait du mal. Il a veillé, il a pourvu aux besoins des membres de la famille. La Bible dit à 1 Timothée 5, 8 que celui qui ne prend pas soin de ses membres de famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc c'est bien de dire que moi, alléluia, je suis chrétien, ma famille c'est la vie chrétienne seulement, oui. Mais il ne faut pas oublier que la Bible dit, quiconque qui ne pourvoit pas aux besoins de ses membres de famille, propres membres de famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est important que nous souvenions que nous avons des parents, nous avons des oncles, des tantes, nous avons des frères et des sœurs avec qui nous sommes nés. Soyons généreux à eux. Il ne faut pas quand on appelle le samedi matin qu'on réponde durement parce que toi tu es à l'étranger. Non. Il faut écouter les gens avec honneur et traiter avec eux avec douceur et amour. Même s'il faut s'excuser qu'on n'a pas ces moyens à cet instant-là, il ne faut pas être méchant. Il faut pourvoir. Joseph a pourvu aux besoins des membres de sa famille. Joseph a pardonné, Joseph a aimé. Faisons attention aux mensonges prolongés qui finalement et dans notre tête comme une vérité qu'on propage alors que ce n'est pas ça. Soyons productifs dans la famille. La Bible dit que l'enfant puisse honorer son père et sa mère et obéir, cela rendra la vie de l'enfant bonne est longue sur la terre. Le contraire peut rendre la vie courte et mauvaise. Donc, c'est beaucoup de leçons que nous avons apprises aujourd'hui. Et les gens ont vu la bénédiction, on retrouve l'argent avec lequel ils sont partis acheter, mais ils ont peur, ils ont tremblé parce que la conscience n'est pas bonne. Que Dieu nous aide à avoir une conscience bonne. Nous allons nous arrêter là et je voulais que le pasteur Célestin fasse la présentation de notre équipe et les salutations et le frère, l'ancien Gaston va clôturer par la prière.
Oui, merci Papa Thomas. Nous pouvons commencer avec ceux qui ne sont pas en mute. Sœur Suzanne, où est-ce que tu y es?
Oui, je suis à Ottawa, Ontario, Canada.
Ok, merci. Frère Gaston?
Je suis à Elmer, Québec, Canada.
Ok, c'est Gatineau ça, merci.
Merci.
Ok, Frère Méda?
Raleigh, North Carolina, États-Unis.
Ok, merci. C'est Marie Tikena.
Montréal, Canada.
Ok, merci. C'est Marie-Paul.
Texas à Dallas.
Ok, merci. Frère Adolphe.
Je suis à Raleigh. Dans l'état de North Caroline, dans l'état de Caroline du Nord, aux États-Unis.
Ok, merci. Sœur Brigitte.
Montréal, Québec, Canada.
Ok, merci. Papa José.
Oui, je suis à Raleigh, au Canada.
À la okay. Non, merci beaucoup.
Ah, vraiment. Aïe.
Pour les Canadiens. Papa Albert.
Je suis à Denver, Colorado, États-Unis.
Ok, merci. Donc, je reviens à ceux qui sont un peu en mute. Sœur Rose.
Oui, allô?
Oui, tu es où?
Calgary, Alberta, Canada.
Ok, merci.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Annabelle?
Minneapolis, États-Unis.
Ok, merci. Sœur Agnès?
Atlanta, États-Unis.
Ok, merci. Sœur Marie-Jeanne. Sœur Marie-Jeanne. Ok, Sœur Marie-Jeanne est à Columbus, Ohio.
États-Unis.
Oui, ok, merci. Ok, et là, on continue. Frère Jean-Baptiste.
Edmonton, Canada.
Ok, merci. Sœur Kaba.
Maryland, États-Unis.
Ok, merci. Donc, Célestin et Christine, nous sommes à Calgary, ici au Canada. Maintenant.
Je suis à Niagara, North Carolina, États-Unis.
Ok, merci. Donc, à la radio, nous avons eu beaucoup de frères et sœurs qui sont à Massachusetts, Missouri, North Carolina, Alberta, Québec. Soyez bénis là où vous êtes aussi. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Voilà, à Thomas.
Oui, nous allons demander à l'ancien Gaston de clôturer par la prière.
Éternel notre Dieu, Dieu merveilleux, grand, nous te rendons grâce parce que tu nous as réunis ce soir autour de toi, autour de ta parole, pour nous parler, nous émonder, nous bénir, nous libérer et nous enrichir. Et nous te sommes très reconnaissants. Merci de ton Fils que tu as utilisé ce soir comme instrument pour canaliser ce que tu voulais nous transmettre. Que tu le bénisses, lui et toute sa famille. Éternel, nous sommes encore vivants. Tu as voulu nous transmettre ce message parce que réellement, il y a une démarcation entre ce qui marche dans ta volonté, qui marche dans la plénitude du Saint-Esprit, et ce qui ne le sont pas. Éternel, nous avons vu Joseph, comment cette présence, cette volonté de demeurer dans la lumière, et que rien n'est caché, Seigneur. S'il faut interpréter des songes, tu lui donnes l'explication. S'il faut reconnaître cela 10 ans après, il le reconnaît. Mais malgré leur nombre, ils n'ont pas pu le reconnaître, ô Éternel. Éternel Dieu des armées, béni sois-tu parce que tu nous as interpellés ce soir. Jésus-Christ, autant marqué, il est mort pour nous. Mais est-ce que nous reconnaissons ce Seigneur Jésus-Christ qui a dû souffrir pour tout un chacun de nous? Éternel, nous nous recommandons entre tes mains. Que cette parole produise des fruits en chacun de nous, afin que nous cherchions à demeurer en ta présence, que nous puissions reconnaître les bienfaits qui viennent de toi, et que nous te soyons reconnaissants, Seigneur. Nous te soyons reconnaissants même pour ce souffle de vie que nous avons. Cette énergie qui nous permet de nous déplacer même à l'intérieur de notre maison, c'est déjà de l'énergie. C'est déjà de la grâce, une bénédiction, Seigneur. Lorsque la maladie vient, on n'a même pas une moindre énergie, cette force de se déplacer, de faire quoi que ce soit. Tout vient de toi, Seigneur. Toutes les bonnes choses viennent de toi. Sois béni, Seigneur, que cette parole nous transforme réellement. Béni sois-tu, ô Éternel, parce que tu as voulu que demain nous ayons notre journée de prière, veillée de prière. Et tu veux que nous puissions prier pour nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos voisins et les enfants même de nos ennemis. Nous te remercions pour la journée de demain. Merci pour tous les bien-aimés qui sont avec nous, qui ne sont pas sur ce plateau, mais qui nous suivent en direct de la radio. Merci Seigneur parce que tu le visites, pas seulement eux, mais aussi tous les membres de leur famille. Qu'ils soient bénis Seigneur, que nous tous nous croissions Seigneur dans ta présence, dans ta connaissance, et la crainte de l'Éternel grandisse et s'affermisse en tout un chacun de nous. Seigneur, nous voulons être de ceux-là. Quand les gens nous rencontrent, voient la lumière de Jésus-Christ. Voient Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons, dans nos paroles, dans nos actions et dans tous nos comportements. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha couvre nos maisons. Que la paix et ta grâce, Seigneur, abondent dans chacune de nos maisons. Et nous voulons te voir à l'œuvre dans toutes nos entreprises, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi et demeurer dans ta présence. Sois loué, sois béni, sois exalté, ô Éternel Dieu des armées. Ceux-là qui sont confrontés à de sérieux problèmes, et tu connais ces problèmes, Seigneur, parce que les pensées et les désirs secrets de l'homme sont devant toi, ô Éternel Dieu des armées. Que tu puisses y apporter solution, afin que nous te servions avec un cœur sincère et un amour vivant pour ta seule gloire. Garde tout et chacun de nous pour ta seule gloire, dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé, papa. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frères et sœurs. Rêvez de participer à la prière de demain sur nos enfants, sur nous-mêmes, et ayons la paix du Seigneur, et jusqu'à demain, avant qu'on se voie. Allez, bonsoir.
Amen.
Bonsoir. Amen. Merci.